podcast.com. Essaye ça.
Wow, hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Tommy Godette au micro, très content d'être de retour après toutes ces aventures. On est accompagné cette semaine de Emmanuel.
Bonjour!
Comment ça va?
Ça va super bien, écoute, je pense qu'on va parler de Magic aujourd'hui, si je me trompe pas.
Ça sera pas la première fois qu'on fait ça avec Jonathan, salut man!
Hey, salut tout le monde, j'ai mis mes bottes Pikachu pour l'occasion. Moi ça me tente de parler de musique. Fait que la trame sonore que je vous recommande cette semaine, c'est Oblique Occasion. Il a fait un album qui s'appelle Punishment, puis je trouve ça pas mal fun. C'est du chill wave, écoutez ça en jouant à Magic, vous allez triper.
Voilà, tout à fait pertinent. Ça va être dans la description du show, j'ai l'impression. T'as noté ça quelque part, hein? On a tout ça en ordre, c'est ce qu'on est tête. Et Lompré qui est là aussi.
Yes, salut les magiciens et les magiciennes, comment ça va?
Ben moi ça va bien. On va même faire un draft peut-être après.
Il y a de la magie en esti aujourd'hui.
Ouais, gros journée au musée. Et bien entendu, notre Sphinx qui nous a monté le dossier qui nous intéresse présentement. Salut Jason, comment ça se passe?
Hey, ça va très bien. J'ai une question pour vous aujourd'hui, chacun. Qu'est-ce que vous faisiez en octobre 2001?
Alors, je suis en train de passer à travers tous les jeux de Neo Geo.
Moi, je retournais à l'université en animation.
Je devais préparer un projet d'art dramatique, probablement.
Moi, j'étais bien pogné dans mes cartes de Magic à cette époque-là.
Toi, tu joues encore à Magic à ce moment-là.
Oui.
Je pense que t'es probablement le seul ici.
Non, je joue à Magic moi aussi.
Ouais, mais c'est comme un... À ce moment-là, j'ai recommencé à jouer à Magic parce que j'avais comme un petit down avant ça.
Ben écoute, pour les 4 prochaines semaines, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à travers ce qui s'appelle le bloc Odyssée. C'est-à-dire les 7 Odyssée, Torment et Judgment. Odyssée est sorti en octobre 2001. Donc c'est probablement lui qu'on va se consacrer pour cette semaine et la semaine prochaine. C'est quelque chose de très... C'est une période très bizarre dans Magic. C'est une période où Magic stagnait un peu, comme on va voir. Et aussi, il y avait des gros changements. Wizard of the Coast venait d'être acheté par Hasbro. Il y avait eu l'effondrement des dot-com qui avait beaucoup affecté Wizard of the Coast et Hasbro parce qu'ils avaient investi beaucoup dans les affaires web. Puis ça avait enlevé de la grosse valeur. Fait qu'ils avaient comme coupé beaucoup de postes, notamment toute l'équipe créative. Ça fait en sorte que ces trois sets-là sont vraiment étranges et sont un peu comme isolés par rapport à ce qui était avant et après. Si tu peux nous passer à la suivante, Tommy. On se reporte là en... tu vois, je vous ai mis ici, ça vient des rapports financiers que Hasbro présente à ses actionnaires en 2016. Et on voit que Magic, tu vois, il estimait là que... Ça c'est l'estimation qu'ils font du nombre de joueurs selon le nombre de boosters qui est vendu. Puis tu vois, il estime qu'en 1987, il y avait 5 millions de joueurs. En 1999, 6 millions de joueurs. En 2000, 7 millions de joueurs. Et en 2001, ça avait redescendu à 5 millions de joueurs. Donc, c'était les suites, là, le combo Winter de Urza Saga. J'en ai souvent parlé. Ça avait beaucoup de turn-off des gens de Magic. Et ils trouvaient que ils avaient un peu perdu le contrôle sur la balance là, de l'équilibre là, des mécaniques pis ça. Fait que c'était trop facile de faire des decks combo. Ils avaient commencé à downpower, comme on avait déjà parlé, à partir de Mercadon Mask. Et Odyssée, qu'on va parler aujourd'hui, s'inscrit vraiment là, là-dessus. C'est un peu une façon de refaire du Magic, mais qui est pas busté.
Il fallait aussi qu'ils repensent Hasbro quand ils ont acheté ça. Ils ont acheté ça dans le bout où c'est que Magic, c'était nouveau. Ils venaient de sauver toutes les hobby stores.
Oui.
Puis... là, tu te ramasses qu'il y a eu les problèmes avec Pokémon qu'on connaît. Il y a d'autres personnes qui ont regardé cette façon de faire-là puis qui ont dit hey, on est capable d'en faire nous autres aussi. Fait que soudainement, ils ont passé de 100% des parts du marché qui venaient d'eux-mêmes créer, avoir beaucoup de compétitivité, au même moment qu'ils venaient d'antagoniser leur player base avec le combo Winter.
Oui, puis donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est pas celle la suivante, Tommy. Donc, le set d'Odyssée, c'est encore Mark Rosewater qui était le designer derrière ce set-là, de la plupart des mécaniques. Ce qu'il cherchait comme nouveauté, c'était de faire un dans le fond, là, tout le bloc, là, Odyssée, Torment et Judgment, c'est basé sur le Graveyard. Ils n'avaient pas fait ça depuis Weatherlight, et c'était la première tentative là, de vraiment faire que chaque carte a rapport, peu importe la couleur, à jouer avec les mécaniques dans le Graveyard. C'est aussi un set que Richard Garfield est venu faire de design dessus, ce qui n'avait pas été vu depuis Tempest en 97. Donc on a le Mark Rosewater et Richard Garfield. Et c'est aussi le début de quelqu'un qui va être très important pour la suite là, des sets de Magic, et qui va un peu expliquer aussi là, pourquoi le Magic des années 2000 s'oriente beaucoup vers la force des créatures plutôt que des instant sorcery. Puis ça, c'est Randy Buehler. Randy Buehler, c'est pas ça la suivante. Randy Buehler, il s'était fait connaître, là, ça c'était vraiment le pro player. Il s'était fait connaître là, l'été 97, proto Chicago avec son Lower Potence. C'était vraiment le gars qui a vraiment perfectionné, là, je vais gagner au tour 1. C'est tout là, à partir de, il a commencé à gagner au proto Chicago en 97. Puis tous les pro tours suivants, il était tout le temps dans le top 4. Il a fait plusieurs decks vraiment dégénérés, ce qu'on appelait le CMU Academy, le Memory Jar deck qui a fait en sorte là, que le fameux combo Winter d'Urza Saga, je parlais, c'est surtout en partie à cause de Randy Buehler et sa gang. C'était des gens qui étaient très habiles pour... Ils cherchaient dans un set comment briser. Et ils trouvaient et ils gagnaient les tournois comme ça. Et Wizard of the Coast, pendant l'année 2000, ils ont fait comme « Ouais, je pense que tu vas venir travailler pour nous. » Ils ont offert une job, un poste. Fait que Tommy, je vais te demander de lire la slide suivante, s'il te plaît. C'est dans le fond dans une entrevue que Randy Buehler a donnée à propos de qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire en étant maintenant sur l'équipe de design de Magic.
L'ancien Spike par excellence, Randy Buehler, a pu constater qu'il y avait une énorme disparité dans le jeu entre le niveau de puissance des sorts et celui des créatures. Cette disparité avait été mise en évidence par le combo Winter de 99. Une de ses citations ici. « Les grosses créatures sont terribles en ce moment. Un counterspell coûte 2 mana bleus et peut arrêter n'importe quel sort adverse avant qu'il n'entre en jeu. » Lightning Bolt pour un mana rouge peut infliger 3 de dégâts à n'importe quelle cible et éliminer les créatures les plus couramment jouées. Swords to Plowshare, encore lui, pour un seul mana blanc, peut retirer entièrement n'importe quelle créature du jeu. Ces sorts étaient si efficaces comparés aux créatures qu'ils étaient devenus complètement dominants. Il était temps de rétablir l'équilibre. C'était pour moi. C'était moi qui trahissais le Spike que j'étais. Je disais, aux recherches et développement, vous nous avez donné des sorts beaucoup trop forts. Sous la direction de Buehler, 2 tendances clés vont émerger. Les grosses créatures gagnent en puissance et en jouabilité. Parallèlement, les réponses à ces créatures sont devenues plus faibles. Pour de nombreux joueurs expérimentés, cela équivaut à réduire le niveau de complexité du jeu. Kai Bouda, le juggernaut allemand, s'est plaint à Buehler qu'il perdait maintenant contre des joueurs moins bons. Oh non!
Oh,
Buehler
non.
Était impénitent. Wizards of the Coast veut que le pire joueur puisse gagner contre les meilleurs. Ça vient de Titus Chalk Generation Deck, The Unofficial History of Magic the Gathering.
Fait que à partir de Odyssey, là, c'est vraiment comme un reset de c'est quoi le power level. Et contrairement à Mercredin Mask et Invasion avant, là, c'est qu'on recommence à mettre du power, mais dans une autre direction. Et ce qu'ils ont trouvé pour faire ça, c'est dans le fond, c'est qu'on va faire que le Graveyard Matter. Fait que si tu peux. Mais ce qui nous intéresse ici à Terrain Basique, hein, c'est le lore. Puis ce qui est intéressant, là, ce que je vais faire, en fait, c'est une explication là, des cartes dans Odyssée, mais bien sûr, avec tout à la sous-tangente du lore. Fait que si tu peux passer à la suivante, ils se sont dit, tu sais, ils avaient complété toute la storyline. Ils avaient fait le Weatherlight Saga, le Urza Saga. À la fin, il y avait le 7 Apocalypse qu'on a déjà parlé, qui est dans le fond, tu sais, les gentils gagnent, les méchants perdent. ils se sont dit, bon, on veut faire autre chose.
Je pense que les fans ont perdu en lisant la fin du set Weatherlight Saga.
Tabarnak, la fin de McGuffin, là?
Ouais.
Shit, moi, je suis pas encore remis de ça, là. C'est une niaiserie, sacrément.
Tommy est encore traumatisé. Quoi,
faire finir son histoire par un enfant de 3 ans?
Ben justement, cette gang-là ne vont pas pouvoir continuer parce que justement, Hasbro va passer la hache dans l'équipe de Storyline, qui était pourtant là depuis 1996. Et ce qu'ils vont faire, c'est que eux vont avoir eu le temps de... Parce qu'ils voulaient faire quelque chose de nouveau. T'sais, ils étaient comme, bon, là, on a fait exploser le monde, il y a eu l'apocalypse. On va repartir comme plus petit. Fait que moi, je soupçonne en fait que toutes les 7 Odyssées, Torment et Judgment, ça se peut que ça se passait pas sur Dominaria. Il n'y a rien sur aucune carte qui permet de relier. Il n'y a pas d'Urza, il n'y a pas de Phyrexien. Il n'y a pas de. Il n'y a littéralement aucun indice.
Tu dirais que ça se passe sur Ximoxpuflux.
Exactement.
Tu dirais, ah oui, ok.
Exactement. Le artwork est différent. Aussi, l'autre aspect qu'ils ont amené, c'est que ils voulaient plus, puis ça c'est Mark Wazarder qui a poussé ça, vu qu'ils voulaient comme tout refaire à nouveau, ils voulaient plus prendre les vieilles creature types qu'on avait tout le temps vu à travers Magic. Fait que dans le bloc Odyssey, il n'y a aucun gobelin. Il n'y a aucun Merfolk. Enfin, il y en a un. Mais j'y arrive. Mais tu sais, le Merfolk n'est plus un creature type pour le bleu. Il n'y a les plus d'elfes. Il n'y a aucun elfe dans le bloc d'Odyssée. Aucun. Il n'y a plus de.
Zombies.
Oui, il y a des zombies parce que c'est un set de graveyard. Oh, okay. Ils ne sont pas pu s'empêcher. Ouais. Mais il n'y a pas de. Tu sais, les creature types. Il y a un ange, mais tu sais, comme il n'y a plus là, les traditionnels.
Ça fait un peu penser à quand Disney a acheté Star Wars. Puis la première chose qu'ils ont faite, c'est dire à toutes les équipe créative, faites ce que, pas mal ce que vous voulez, mais on parle pas du prequel trilogy.
Ouais. Fait que là, ce que se sont dit, c'est qu'on va faire ça va être un setting post-apocalypse. Hein. Dans le fond, ça se passe de 2 siècles après l'invasion des Phyrexiens. Et on va le mettre dans un coin qu'on n'avait jamais fait d'histoire de Dominaria dessus. Fait que ils ont pris, tu sais, je vous avais déjà dit que Dominaria, il y avait un globe terrestre, que toute la map était dessus. Ils ont pogné un spot qui avait rien d'écrit dessus, qui est situé à l'ouest de Latnam et Terizior. Là, ça, c'est là qu'il y avait notamment Ice Age, ces choses-là. Il y avait une espèce de grosse île qui s'appelait qui ont décidé d'appeler Otaria. Et c'est là que ça va se passer. Si tu peux passer à la slide suivante. Puis comment qu'ils l'ont développé, c'est que le storyline du bloc Odyssée, c'est une guerre entre les couleurs.
Bon.
Puis c'était pour pousser un peu plus, là, de mieux définir les couleurs de Magic. Puis même la map suit... Le nord de la map suit le cadran des couleurs qu'il y a en arrière de la map. Tu sais, les forêts sont à gauche, les montagnes sont dans le sud-ouest, le swamp est au sud-est, les îles, ben, tu sais, la mer, dans le fond, est à l'est. Puis si tu l'inverses pour le sud du continent, c'est la même chose, mais inversé à l'envers. Donc, c'est un peu le truc qu'ils ont suivi. Puis c'est vraiment, tu sais, de faire rien. On veut que les fans... c'est du nouveau. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'à la base...
Ils veulent laisser place à l'imagination.
Non, mais je veux dire qu'à la...
Il y a un nouveau point d'entrée, là. C'est un...
Ouais.
C'est
on recommence. C'est vraiment comme un reset.
Tu veux pas arriver, puis tu veux pas arriver dans un Herbie Store avant les pre-cons. Tu fais comme, OK, je veux commencer à jouer, avoir du fun. Par où je commence? Odyssey's the place.
Odyssey's the place, exactement. Si tu passes à la suivante, s'il te plaît.
On retourne aussi à l'essence de Magic quand tu fais une chicane des couleurs de même.
Bon, oui, c'est ça. C'est ce qu'ils voulaient. Fait qu'on fait... Mais en même temps, ils refaisaient la même affaire. Fait que toutes les cartes communes dans Odyssey, c'était le gros set. Odyssey, c'est le gros set sorti à l'automne. Puis après ça, Torment puis Judgment, c'est les petits sets sortis à l'hiver et au printemps.
Tantôt, il y avait quoi, 330 cartes?
Oui, c'est un petit peu plus... Je pense que c'est un petit peu plus gros que de nos jours, mais...
Oui, c'est comme 50 cartes.
C'est pas le core set, by the way. Hein? Le core set, quand Odyssey est sorti, c'était la 7e édition.
C'était écrit pour niveau expert.
Oui, c'était écrit niveau expert sur le booster. Fait que les communes, c'est un peu la même affaire qu'on a depuis 1993. Tu sais, t'as Raise Dead, tu payes un noir, je veux dire, il n'y a pas Raise Dead dans Odyssey, mais c'est qu'ils vont prendre les mêmes communes, mais ils vont les refaire différents, Graveyard Matter. Fait que tu sais, on se rappelle dans Alpha, Raise Dead, pour un noir, tu ramènes une créature dans ta main, un Lightning Ball pour un rouge, tu fais 3 dégâts, un Fog, tu annules les combats pour un vert. Ben, dans Odyssey, si tu passes à la suivante, vous allez voir, ils ont littéralement refait, c'est comme refaire un corset, mais Graveyard Matter. Ils ont inventé la mécanique Flashback.
Ah oui, ça, j'étais content.
Fait que Flashback fait son apparition dans Odyssey. Fait qu'on voit comme le Raise Dead, c'est Mortef, qui coûte 2. Tu ramènes une créature dans ton graveyard, mais tu as un flashback de 5. C'est-à-dire que tu payes 5, tu exiles Mark Teff de ton graveyard, mais tu peux le recaster une deuxième fois.
Hey, en checkant ça, les dessins ici, là, du beau Justin Sweet à côté de Ron Spencer, là, ça flash encore plus que Ron Spencer, ça fait longtemps que...
Je vois l'image de Ron Spencer et je crois comprendre ce qui se passe sur l'illustration, mais je suis pas sûr.
On n'est pas sûr, c'est vraiment... C'est Firebolt, un rouge, ça c'est le Lightning Bolt. Fireball, un rouge, tu fais 2 dégâts où tu veux et ça a flashback 5.
Ça aurait dû être en instant.
Ouais. Moment of Peace, c'est le Fog. Hein? Tu payes 2, tu préviens toutes les combat damage, bon. Flashback 3. Ça l'a vu vraiment du gros jeu là, dans des decks vraiment forts. Fait que Flashback, c'est la première grosse mécanique du bloc Odyssey, Torment, Judgment.
Puis ça en est une qui dure depuis.
L'ajout qu'ils ont fait cependant à l'époque, c'est que si tu regardes en haut de la carte à gauche, il y a une pierre tombale à côté du nom de la carte. Puis ça, c'était vraiment parce qu'ils se disaient, vu que maintenant, ça va tout le temps falloir que tu checkes les graveyards pendant un jeu. Fait que ça permet aux gens de pas donner une chance à tout le monde là, que, OK, ouais, tu sais, il y a une carte flash. Fait que toutes les cartes qui ont flashback ont la pierre tombale. La raison pourquoi ça a disparu, c'est que 2 ans plus tard, avec Mirodin, ils ont adopté le nouveau... le format de carte moderne, là, où ce que les rebords sont moins larges, fait que la pierre tombale ne fitait plus. Ouais. Fait qu'ils ont décidé de plus la garder. Mais en même temps,
on était habitués, là, fait que...
Ben oui.
Ouais, ben, une des règles qui, quand ils ont commencé à jouer avec le Graveyard, qui existe encore, mais qui est inapplicable, c'est que l'ordre des cartes dans ton graveyard, dans les règles de Magic, est importante, fait que t'es pas censé le shuffler. Fait que
ouais, mais ça, ça a été enlevé dans la 6e édition.
Ça a été enfin enlevé.
Ça a été enlevé vraiment quelques années avant ça.
Parce que sinon, c'est pas jouable.
T'étais pas censé pouvoir bouger ton graveyard. Flashback, c'est une création de Mark Rosewater. C'est vraiment la base. Là, si tu veux que ton graveyard matter dans toutes les couleurs, ben tu fais simplement que les cartes, tu peux les recaster quand elles sont dans ton graveyard. Ça va revenir dans Innistrad en 2011 et ça va connaître encore un gros succès. Si tu passes à la suivante, on va voir là, t'as tout un cycle dans chacune des couleurs.
Ah, c'est le début des Squirrels!
Oui! Non, les Squirrels avaient commencé avant dans Tempest, mais il y a un gros aspect fort sur les Squirrels dans le vert. Généralement, ils auraient mis les Saproling puis les Fungus, ces affaires-là, mais là c'est Mark Rosewater qui aime. S'il y a des Squirrels dans un set, c'est parce que Mark Rosewater est proche. Okay. Ouais. Fait que c'est un des tribales dans ce set-là, dans Odyssey, c'est qu'il y a beaucoup de Squirrels. Fait que t'avais tout un cycle là, commune et rare dans chacune des couleurs de cartes qui ont flashback. Puis ça l'a tout vu beaucoup de jeux. Tu sais, Chatter, Squirrel, un vert, tu mets un token Squirrel 1-1, puis après ça, tu peux le flashback. Puis ça, c'est commune, fait que tu pouvais en pogner plusieurs dans un draft. C'est qu'une carte, tu crées 2 créatures, tu sais. Une qui a vu vraiment du jeu, Roar of the Worm, 6 colorless, un vert, jamais tu vas payer ça. Non, pour faire un Worm 6-6, t'as crise dans ton graveyard au début de la game, puis après ça, flashback 4. Fait qu'un 6-6 pour 4, là, c'est très fort à l'époque. Puis Call of the Herd, les éléphants, hein, tu payes 2 colorless, un vert, tu mets un éléphant 3-3, après ça, redondance. Tu payes flashback. Redondance. Fait que ça, c'est la mécanique flashback. L'autre mécanique qui venait avec Odyssey et qui était très graveyard axé, si tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, c'est qu'ils se sont mis à dire, dans le fond, on veut évaluer combien que tu as de cartes dans ton graveyard, fait que ça va avoir un effet sur tes cartes que tu as sur ton battlefield. Ça avait été fait dans Ice Age avec le fameux Lorgoyf, hein, que son power toughness est égal au nombre de créatures.
C'est le premier Lorgoyf.
C'est le premier qui fait ça. Là, ils se sont dit, y a-t-il une façon qu'on peut pousser ça dans d'autres directions? Fait que si tu passes à la suivante, Tommy... Dans Odyssey, t'as tout un cycle de... Dans le fond, ça c'est Richard Garfield qui a inventé cette mécanique-là. C'est le Threshold. Fait que t'as tout un cycle dans chacune des 5 couleurs de commune, non-commune et rare de cartes qui ont Threshold. Ils ont mis le Threshold à 7. Fait que par exemple, le Werebear, c'est le Grizzly Bear du 7. Hein? Un colorless, un vert pour un 1-1 que tu peux aussi taper pour faire du mana vert. Vous remarquez que c'est un ours druide. Il y a Threshold. Fait que si t'as 7 cartes dans ton graveyard, peu importe la carte, mais t'en as 7, il gagne +3/+3. Fait que t'as des façons là, de gamer ça parce que t'as envoyé ta main dans le graveyard, qu'au tour 2, tu vas avoir un 4-4 en jeu qui mana dork. Ouais. Le Nimble Mongoose, c'est l'autre grosse créature de. Ben, elle est pas grosse, mais je veux dire l'autre bonne créature pour un vert, un 1-1. Elle peut pas être targetée par des spells ou des habités à la Shroud. Mais elle aussi, si t'as Threshold, elle devient un 3-3. Ça, c'est deux cartes-là, ouais, de Minel standard de son époque.
Ah, ouais, ouais.
Puis, bien sûr, vu qu'ils se sont inspirés de leur Goyf pour ça, ben, ils ont fait le Terravore. Tu avais tout un cycle en rare. Il y avait un Goyf, un leur Goyf pour chacune des couleurs. Fait que le Terravore, c'est lui qui a vu le plus de jeux. Un colorless 2 verts. Son Power Toughness, c'est égal au nombre de land dans tous les graveyards.
Oula!
Puis, généralement, le monde, vu que dans cette set-là, ils étaient encouragés à jeter leur land excédent dans le graveyard, ben, ça suffit d'être ça. Pas ça, le suivant.
Il y avait manière de faire vivre un Terravore. Le Wild Mongrel, puis Careful Study.
Ouais, fait que t'avais plein. Tout le reste des cartes, fait que c'était majoritairement Flashback puis Threshold, puis le reste des cartes, c'était des façons de crisser des affaires dans le graveyard.
Hey, moi, j'étais là, cette année-là, hein, puis mes decks préférés depuis le début de Magic, ça avait tout été les réanimateurs, puis ça avait tout été un problème de mettre ton gros monstre dans le graveyard pour faire Animate Dead dessus. Puis là, ils ont sorti Careful Study. Puis là, ben, ça a tout réglé ça. Toutes mes decks réanimateurs, je les ai refaites en mettant du bleu dedans. Ça a été une des cartes qui a eu le plus d'impact sur mon fun à jouer à Magic.
C'est un bleu, tu piges
ça m'arrivait dans le temps, là, tu sais, mettons.
Je fais juste écrire la carte.
Ouais, c'est un bleu, tu piges deux cartes, tu jettes deux cartes, c'est un sorcery, c'est tout simple. Mais tu sais, à l'époque, ça m'arrivait, mettons, là, premier tour, je mets pas de land, puis là, le tour d'après, je pige une carte, là, j'étais à 8. Fait que là, je jette mon gros monstre, puis là, le troisième tour, je peux faire mon Animate Dead dessus. C'était le genre de move qu'on faisait pour être capable de jeter nos cartes. Puis là, ben voilà, ça l'a...
Ouais, c'est ça. Fait que le set te donnait plein de façons là, pour aller pogner ton Threshold et ton Flashback.
Oui!
Wild Mongrel, c'était l'autre. Là, un colorless, un vert, une 2-2 que tu peux discarter une carte pour lui donner +1/+1
ouais.
Until enough turn. Fait que tu sortais ça au tour 2, puis tu sacrais tes 7 cartes, tes 6 autres cartes dans ton graveyard. Ça allait très vite. On passe à la suivante. T'avais là, un des decks les plus répandus de l'époque. Je dirais, le gars, ici, j'ai mis comme exemple, c'est le deck de Raphaël Lévy qui a appelé le Wonder Goose. Il a fait le top 8 au World Championship en 2000. Ça, c'est l'année d'après, en 2003, l'été suivant. Et c'est vraiment ce que je vous ai dit. Là. Tu vois, il y a le fameux ours qui a Threshold, le Wild Mongrel, le Worm. Dans le fond, tu voulais mettre ton Worm le plus tôt possible pour le caster autour 3.
Les Breakthrough aussi, c'est très bon.
Ouais, les Breakthroughs, les gars, ça va être une carte de la semaine bientôt.
Okay.
mais tu sais, vous comprenez le principe. C'était vraiment le deck aggro. T'as étonnamment pas de deck aggro rouge fort à l'époque.
Et y a, je veux féliciter. Là. Ouais. C'est un deck avec du vert et il n'y a aucun Calis d'Elf.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'Elf.
Ça. Je le sens bien. Je suis à l'aise avec ça.
On passe à la suivante. Excuse, c'est le même. C'est un zoom sur le même. Là. Fait que ça va faire des Nibble Mongoose, Swirbees, pis ça. Et t'avais d'autres affaires intéressantes qui, je trouve, que se sont perdues et que je vois plus en 2023. C'est qu'une des façons de jeter des cartes dans ton graveyard, c'est de réduire le nombre de cartes que t'as le droit dans ta main. Et Odyssey a amené un cycle vraiment intéressant, c'est les beasts qui mangent l'esprit, les Two Nimbler, Two Feeder and Two Devourer. Tu vois, il y a un puis ton end size est de 2. Tu peux pas avoir plus que 2 cartes dans ta main. Le Eater, lui, c'est réduit ta main à 3, puis le Devourer, il réduit ta main à 4,
mais c'est 4 flying. 2, 2, 2, 3, 2, 4.
He's reduced by 4. Fait que c'est encore plus petit.
Ça devient 3.
Ouais. Fait que, tu sais, ça c'est intéressant. Ça te force, là, dans le fond, ça te force à garder ta main petite. Sans gaspiller de cartes, tu sais, de spell qui te fait discarter une carte, ça te le fait automatiquement à la fin de ton tour.
Ben oui,
dans certaines stratégies,
La gimmick est super, comme bien rendue aussi. Là, tu vois que la monstre, il se plug direct sur ton crâne. Fait que là, t'as moins de place pour avoir de la magie. Mais, tu sais, lui, il est bon, là, le monstre. Il est avec toi, c'est ton ami. Il vole.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis c'est très contre-intuitif façon de deck building. Là.
Justement, moi, mon édition. Elle me disait « Non, touche pas à ça. »
Touche pas à ça, ouais. Mais lui qui était le plus utilisé, c'était lui à commune, là, parce que tu pouvais le casser autour.
Ben oui,
ouais,
c'est ouais. Ça.
Un flying, il réduit ta main by two.
Puis là, tu peux jeter ton gros monstre, puis deuxième tour, tu mets ta sombre, puis là, tu peux faire animer. Dead, excusez, je reviens souvent avec ça, là, mais
moi, tu vas voir, la carte de la semaine, garde tout ça pour la carte de la semaine.
Bédard.
On passe à la suivante. Et voilà, c'est ça. Dans le noir, dans Odyssey, c'était vraiment, c'est ce que Tommy nous parle depuis le début.
Allô, Buried Alive!
Ils ont réimprimé Buried Alive de Weatherlight. C'est que tu cherches dans ta librairie pour trois monstres, tu les mets dans ton graveyard, puis tu shuffles ton librairie. Et dans le rare, ils ont mis Entomb pour un noir, tu cherches une créature, tu la mets dans ton graveyard, tu shuffles ta librairie. Ça, c'était les deux cartes les plus emblématiques, ben je pense, du set Odyssey. C'était vraiment, on les voyait partout. Je vais y revenir tout à l'heure dans la carte de la semaine. Il y avait un set de trois cartes là, qui faisait à peu près la même affaire.
Buried Alive, c'est fou parce que tu peux avoir ton threshold assez vite avec ça. Ben Buried Alive dans ton graveyard.
Ça t'en fait
plus
quatre.
Trois autres créatures. Quatre.
Quatre d'un coup, pétard.
Puis mettons un Dark Ritual pour faire ça au premier
tour.
T'exagères, là. On s'excuse, on prête à aller trop vite, trop loin.
Il y avait des decks Reanimator beaucoup avant Odyssey, mais ils n'ont jamais été aussi forts qu'à partir d'Odyssey. Ben, surtout en Legacy puis Vintage. C'est vraiment là que ça a commencé. 2001. On est en business. Si tu passes à la suivante.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Enfin, c'est la suivante. La suivante. Ah oui, t'avais aussi, tu sais, qui dit on grossit le graveyard, on met des affaires dans le graveyard. Ben, ça prend des réponses.
Ben oui.
Fait que t'avais toute une série de cartes que je trouve quand même très drôle parce que dans le fond, ça devait surtout servir en limité. C'est t'attaques le graveyard de l'autre. Tu sais, comme Coffin Purge, hein, la purge du cercueil. Pour un noir, tu enlèves une carte d'un graveyard from the game. Ça a flashback à un noir. Ou décompose, hein, ça décompose. Tu enlèves trois cartes d'un graveyard from the game. Tu l'exiles pour deux, pour un colorless, un noir. Tom Fire, un sorcery rare, un noir. Le target player enlève toutes les cartes qui ont flashback de son graveyard from the game.
Mais le graveyard 8, il était pas au point, me semble.
Non.
C'était vraiment.
Ils l'ont juste mis dans le noir, puis je trouve ça grave. Moi, je pense que le noir devrait pas.
Il aurait dû mettre des artefacts.
Ouais, non, le graveyard 8 fonctionne généralement mieux en instant speed. C'est des sorceries, puis comme tu dis, la seconde, c'est qu'il y a une zone de jeu. Qui devient vraiment forte, ben faut que tous les joueurs soient capables d'interagir avec cette zone de jeu-là, quelle qu'elle soit, même si c'est le graveyard, puis oh, c'est noir.
Je vous ai pas mis d'autres couleurs. Tu sais, j'ai pas mis toutes les cartes, là, on voit pas toutes les cartes, bien sûr, là, mais j'ai pas trouvé dans les autres couleurs qui valaient la peine d'être montrées. C'était vraiment, fallait que tu joues dans le noir si tu veux attaquer le graveyard. Généralement, ce que les gens faisaient, c'était juste comme ils deal with it, puis. Ouais. T'essaies d'être plus rapide que l'autre. Là. On passe à la suivante.
Coffin Purge, c'est quand même cool encore. En instant de même. Là, puis tu peux l'avoir flashback pour pas trop cher. Mais il n'y a rien à faire avec Tomb Fire. On met de la merde.
Ouais, c'est vraiment de la merde.
Regarde-toi dans le miroir aussi avant de sortir à triquer de même.
C'est très, très, très situationnel.
Oh, ça nous amène à la carte de la semaine, une présentation du très ludique pub L'Adversaire. C'est 4303 Sainte-Catherine-Est, dis-je de mémoire. On va écouter une petite tranche de beat à bande, puis de l'autre côté, on jase. Carte de la semaine à Odyssey. Make Graveyard Great Again. Ah, il faut que ça nous amène à la carte de la semaine. C'est qui go ça? Là?
C'est moi qui go ça.
C'est toi qui go ça.
Parce qu'écoute...
T'as-tu un build-up?
Vas-y, passe à la suivante. Qui dit Odyssey dit Graveyard. Qui dit Graveyard dit Reanimator.
Oui.
Une des grosses cartes là, qui a permis beaucoup de combos à l'époque et qui est encore jouée de nos jours, c'est le Zombie Infestation. C'est un enchantement uncommon, un colorless, un noir. Ça, c'est vraiment simple. Parfois, c'est un permanent. Là. Et pour gratuit, tu peux discarter deux cartes de ta main, tu mets ça dans le graveyard, et ça te crée un zombie token 2-2.
Ouais.
Ça, c'est exactement ce que tu veux quand tu mets des cartes dans ton graveyard. Parce que non seulement tu mets des cartes dans ton graveyard gratis.
Instant speed.
Et en plus, ça te fait un body 2-2 que tu peux après ça soit attaquer, défendre avec ou le sacrifier pour faire un
peu avec.
Si tu passes à le truc suivant, t'avais là, c'est vraiment, tu sais, avec le Entomb puis le Buried Alive, on a ici, c'est le deck de Darwin Castle au World Championship de 2003. C'est les decks Reanimator que je vous dis, c'est vraiment là que ça a commencé. Le gars, tu vois, il joue 4 Entomb, 4 Buried Alive, 4 la carte de la semaine qui est Zombie Infestation. Et aussi, là, tu vois, il joue 4 celle de Urza Saga. Là, le, c'est quoi, c'est. En tout cas, c'est un autre. Puis tu sais, Reanimate de Tempest. Fait que t'avais. Tu sais, ce deck-là, il y a 19 cartes qui va mettre des affaires dans le graveyard ou qui les ramène. Et t'as juste là, tu sais, il y a juste deux, trois grosses bombes là, comme le Verdant Force. T'as pas besoin de grand chose. Tout le deck est consacré à une créature que tu vas mettre dans ton graveyard, t'en sors, tu tues l'autre. Merci, bonsoir. Donc, Zombie Infestation était très bon pour ça parce que tu peux en envoyer du stock dans le graveyard. C'est pas ça la suivante, Tommy?
C'est un réanimateur très typique. Là. J'aime aussi qu'il y ait des cartes qu'il n'y ait aucun moyen de caster. Là.
T'as pas besoin.
C'est très thématique. Là. Puis je me rappelle à l'époque les Squee Goblin Nabob. Là, les autres, c'est deux colorless, un rouge. Puis quand il est dans ton graveyard, tu le remets dans ta main. Fait que là, t'en jettes deux pour faire un zombie, deux. J'ai déjà rencontré ça souvent.
Il choisit ce qu'il met dans le graveyard pour réanimer, puis comme si c'était pas suffisant, il profite du Vampiric Tutor à Instant Speed. Fait il a toujours ce qu'il veut dans sa main.
Et un autre aspect de Zombie Infestation qui est intéressant, si tu passes à la suivante, Tommy, c'est qu'ils l'ont réimprimé dans moderne, dans M12. Ils l'ont sorti dans M12, je pense que M12 c'était en 2011. Ils ont ressorti Zombie Infestation dans le format moderne, fait que ça l'a rendu que cette carte-là était maintenant disponible dans moderne. Et dans World Wake, sorti en 2010, il y avait la carte Treasure Hunt. Et ça l'a donné un des decks les plus cons dans l'histoire de Magic, ouais, que j'ai souvent rencontré dans des magasins. Il appelle ça le Zombie Hunt, parce que Treasure Hunt, ce que ça fait, c'est un colorless, un bleu. Tu révèles une carte de top de ta librairie jusqu'à temps que tu trouves un non-land. Et là, tu peux mettre tout ce que tu as révélé dans ta main. Et dans le fond, tu arrêtes, surtout que tu as un non-land, tu sais. Le trick que tu voulais faire, c'est que les decks de Zombie Hunt ont seulement 4 Zombie Infestation, 4 Treasure Hunt, et tout le reste, c'est des lands.
Ben oui.
Que des lands.
Ben oui.
Fait que tu essaies de... Tu sais, tu mulligan comme un fou. Ouais,
pour avoir au moins une Zombie Infestation. Ouais. Pis,
Et après ça, tu fais ton Treasure Hunt, tu remplis... Généralement, ils utilisaient aussi le land, là, le Library... le Reliquary Tower, qui fait que tu peux avoir autant de cartes que tu veux dans ta main.
Ben oui, pourquoi pas.
Et c'est que tu vas lâcher, tu vas prendre, tu vas piger comme 30 cartes, tu crées ça dans ton graveyard, ça te fait 15 zombies, puis tu passes au boss.
Ça te fait un gros troisième tour, mettons.
Oui, non, c'est pas un deck qui est bon.
Ben non.
Mais c'est un deck. C'est un deck. By the way,
c'est un glass cannon.
C'est un très gros glass cannon, mais je veux dire, on le remarque moins de nos jours parce que le format moderne, c'est devenu Modern Horizon only. Là. Mais moi, je me rappelle là, dans les magasins en 2016, 2017, 2018, là, il y avait tout le temps un Taouin qui se pointait avec son deck de Zombie Hunt et ça me faisait beaucoup rire. Fait que c'est ça, la carte de la semaine, Zombie Infestation, c'est une façon de faire des monstres. Et oui, je veux mentionner le artwork awesome. Si vous êtes capable de le zoomer, là, si vous nous écoutez en audio, ça vaut vraiment la peine. L'artiste, c'est Baxa. Baxa, c'est pas mal celui qui, avec Brom, a donné les couleurs au monde de Dark Sun dans Donjons Dragon. Et quand la ligne de Dark Sun a comme foiré, ben, il s'est fait engager par l'aile Magic de Wizard of the Coast et s'est mis à faire des cartes là, dans le bloc Odyssey. Il était un des art designers et ça paraît beaucoup. C'est vraiment, j'aime beaucoup, là, ça a un aspect très cartoon, mais quand t'as observe là, l'agencement des couleurs puis des ombres. Là. Check les muscles des zombies, là, comment ils sont assez détaillés. Là. C'est très impressionnant comme artiste. Et le linge, là, le genre de chiffon.
Tandis-nous.
La différence des valeurs dans ces couleurs est choisie. Puis, ben ouais, il s'en va des couleurs froides, des couleurs jaunes, puis ça marche.
Fait qu'y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la carte de la semaine ou taisez-vous pour toujours, puis on s'en va vers la fin de l'émission? Et voilà, on va
dans le lore.
On va réécouter une petite tranche de Beat à Bone avant d'aller poursuivre ça. Oh yeah, on y retourne, on est dans Odyssey, hein? Ouh, il y a des lands.
Ouais, donc le dual land dans Odyssey qui était disponible, là, c'était les... j'oublie comment ils appellent ceux-là, mais
filter?
C'est... Filter Land, je pense, c'est qu'il faut que tu payes un colorless puis ça te donne deux manas des deux couleurs de le dual des lands qui sont là. C'était très basé, les drafts étaient très basés sur deux couleurs. Tu peux passer à la suivante, Tommy. On va aller voir c'est quoi ça, Otaria, hein, j'en ai parlé. On va commencer par les blancs. On va commencer par le blanc. Le blanc, ça c'est... ça va pas bien, j'ai un petit blanc de mémoire. C'est les plaines...
Ça donne bien, les points bleus de mémoire,
Les plaines de Daru. les plaines de Daru, ça va être dans le fond tout ce qui est blanc dans Odyssée, là, les cartes blanches vont avoir rapport avec les plaines. Et qui sont les habitants de ces plaines? Tu peux passer à la suivante.
Des moines.
Non, c'est non. Les... t'étais proche, là, c'est les mystiques et les nomades. C'était les deux...
Moi, je te le donne.
Merci. Les deux creature types dans Odyssée, c'était, tu vois là, le Mystic Visionary, un colorless, un blanc pour un 2-1 threshold. Mais c'est un threshold, il y a flying. Même chose, le Mystic Pennant, hein, il y a vigilance 1-1, son threshold, il donne plus un flying. Fait que tu sais, il n'y a pas vraiment d'aspect qui explique pourquoi il care avec le graveyard, le threshold. C'est juste que c'est des genres de peuples nomades qui se promènent tout le temps dans les plaines. Et leur leadership, ça s'appelle le Order. C'est pas ça la trame suivante, Tommy? Dans le fond, le Order, c'est... Ah oui, excuse, je voulais juste mentionner, là, la meilleure carte blanche dans Odyssey, c'est le Tireless Tribe, qui est encore là, un Discard Enabler. Pour un blanc, c'est un 1-1. Tu discardes une carte, tu gagnes plus 0, plus 4. Puis là, ce que tu veux jouer, tu sais, tu joues
tour 1. On te voit aller, là,
Tu joues About Face, hein, qui switch le Power Toughness de ton Tireless Tribe.
Ouais.
Tu swings sur l'autre, tu me jettes toutes tes cartes dans le graveyard, sauf ton Fling, que tu vas caster pour crisser le Tireless Tribe, qui est rendu genre un 16-1. Tu fous ça dans la face de l'autre. Ça, c'est très joué encore de nos jours en Legacy. Il y a beaucoup de decks qui sont basés autour de Tireless Tribe.
Sinon, ouais. Tu peux juste faire du dommage avec le Toughness aussi, puis ça score.
Oui, mais de ce que j'ai vu, c'est généralement, il y avait... parce qu'il y a une carte aussi dans bleu qui permet de switcher le
Power Toughness.
Tireless Tribe, si vous n'avez qui traîne en bulk, là, ça vaut du money à ça.
Il n'y a pas beaucoup de vêtements sur ce artwork de Fling-là. Hein?
Non, mais le Tireless Tribe non plus, sont pas mal. Ils ont juste une cape rouge, puis un casque, puis une lance à la tête. Là, mais bon, c'est les nomades de... tu vois, ils mentionnent, on a survécu à des famines, à des attaques de nains, parce que les créatures dans le rouge, c'est des nains.
Canicule.
Et des coups de chaleur. Pourquoi cette petite tempête de sable nous dérangerait? On passe à la suivante. On va continuer dans mes nomades et mon tempête. Order. Passe à la suivante. Ça, c'est la même affaire qu'on a vu, mais dans le bleu, là, avec gauche. Tu sais, gauche, tu piges deux cartes, puis tu ramènes deux îles pour pas le payer. Fait que après ça, tu crées ces cartes-là, ça fait plus 8 sur ton Tireless Tribe. C'est vraiment bon. Fait que si vous cherchez des idées de deck, là. Mais sinon, moi, ce que je veux surtout aller, c'est la suivante. Donc, on voit, c'est une espèce d'aspect religieux dans le blanc. L'orgue, là, c'est comme s'il était comme dirigé par des genres de prêtres. Il y a un aspect cleric. Il n'est pas aussi répandu que dans Onslaught qui va sortir l'année suivante et qui va avoir un aspect de creature type très important, là, de Tribal Matter. Mais ils nous les plantent déjà dans Odyssey. Tu vois, lequel tu veux parler
Le Dedicated Martyr, là.
Ouais,
son dessin, là. Je remarque que sa robe, c'est la robe de l'école des Bleus.
Dans Urza Saga, ouais. Ouais, ça ressemble un peu, mais je pense que c'est accidentel parce que, comme j'ai dit, il n'y a vraiment rien qui permet de relier. Il n'y a rien dans les textes, il n'y a rien de. Tu sais, par rapport. Ça n'a pas rapport que des nomades des plaines soient reliés à l'Académie Tolarienne. Puis surtout que lui, c'est un cleric. Ouais. Tu vois, c'est un blanc, un, et tu le sacrifies pour gagner 3 de vie. Puis ça, dans le fond, pourquoi tu veux le sacrifier, c'est grossir ton graveyard. Hein?
Ouais.
Et vous remarquez dans les flavor texts. C'est des genres de. Ils parlent beaucoup que la cabale, c'est leur ennemi. On va voir la semaine prochaine, la cabale, c'est les cartes noires dans Odyssey qui sont très, très, très présents. C'est les gros vilains dans cette set-là. Mais dans le fond, c'est que les nomades de la plaine de Daru sont. Leur boss, c'est un ordre religieux qui s'appelle The Order. T'as une autre gang dans le blanc, si tu passes à la suivante, Tommy. C'est les oiseaux. Fait que là, tu sais. Non, je me suis devancé, là. On voit ici, là, tu vois, le Order, l'espèce d'entité cosmique qui prie, là, qui leur donne comme leur pouvoir magique, c'est un très vague The Ancestor. Hein, sur le Angelic Wall, là, qui est un wall flying, ça dit « L'ancêtre nous protège dans des façons qu'on commence seulement à comprendre. Hein. » fait que t'as cette espèce là, d'aspect-là, tu vois, le Ancestral Tribute, hein, ça fait référence à tes ancêtres. 5 colorless, 2 blancs. Tu gagnes 2 de vie pour chaque carte dans ton graveyard, puis ça a le flashback.
12,
un des plus gros coups de flashback dans l'histoire de Magic. C'est ça, fait que t'as beaucoup de références à l'ancêtre. Puis vous allez voir dans quelques épisodes, on va apprendre c'est qui l'ancêtre. Mais dans le fond, t'as cette espèce de... Puis là, moi, je me disais, ça a peut-être un rapport avec, justement, toutes les histoires là, de Urza ou quelque chose. Tu sais, ça a peut-être un lien avec ça, maintenant qu'ils vont nous révéler, mais finalement, non, c'est pas ça partout. C'est comme spoiler, je vous ai dit, là, Odyssée est vraiment dans sa propre bulle. On passe à la suivante. Ça, c'est vraiment nice. T'as une série de cartes, là, au lieu d'avoir des Circle of Protection, c'est les sphères. T'as la Sphere of Duty, Sphere of Law, Sphere of Grace, Sphere of... excuse, je le vois pas bien dans
la reason.
The Law and Reason.
Duty.
Ça, dans le fond, c'est que, par exemple, le sphere of Duty, si une source verte te fait du dégât, tu vas prévenir deux dommages de ce dégât-là. C'est faire des Circle of Protection moins fort. Mais si vous remarquez le artwork de ces cinq cartes-là, chacune des couleurs correspond avec le pentagramme, la roue des couleurs en arrière d'une carte de Magic.
Le mouvement du dessin.
Ouais, c'est comme le circle, le rouge, là, le Sphere of Law en bas à gauche, c'est exactement là que la boulette comme, rouge est sur une carte de Magic. Ça, je trouve ça... quand je vous dis qu'ils care, ils veulent définir c'est quoi les couleurs, ça, c'est un excellent exemple. Puis, ils vont associer les mots avec ces couleurs-là, comme le law, la loi, c'est la réponse... C'est la réponse du blanc au chaos. Ah, le duty, hein, le devoir, c'est la réponse du blanc au vert. Fait que ça, c'est des concepts qui vont garder et qui sont encore utilisés là, 20 ans plus tard dans les lore de Magic. Souvent, ils vont associer un à l'autre. Uh-huh. Ils vont avoir, un policier sur New Capenna qui combat le vert, ben, il va avoir duty à quelque part dans le flavor text. C'est un aspect qu'ils ont gardé que je trouve vraiment intéressant. Sinon, tu peux passer à la suivante. La chef des nomades, hein, c'est Piana, nomade capitaine, un colorless 2 blanc, caca l'attaque, toutes les créatures ont +1/+1. On la retient, elle va revenir plus tard. Et sinon, ben, l'autre gang dans les couleurs blancs, Tommy va être content, c'est les oiseaux. Les Haven. Fait que dans le fond, ils cherchaient une façon, à partir de Odyssey, Randy Buehler, que je parlais tout à l'heure, il s'est dit il faut que le blanc a plus de flying. On a vu que les nomades, quand tu as Threshold, ils se mettent à voler. Le bleu à l'époque était surtout réservé pour le vol était surtout réservé pour les cartes blanches. Sinon, dans le bleu, sinon dans les cartes blanches, il fallait que tu aies vraiment un haut casting cost, c'était les anges. Mm-hmm. Il fallait que tu payais cher pour que ta créature blanche la vole. Dans Odyssey, ils vont inverser ça. Fait que si tu nous passes à la suivante, Tommy, ils vont amener les Haven, le concept des Haven, les hommes oiseaux. C'est là que ça commence. Ils ont mis dans le bleu et dans le blanc. Fait que t'as tout un peuple là, de les Haven qui sont aussi pour une raison quelconque vénèrent aussi l'ancêtre. On voit le Haven Cloud Chaser à 2-2 flying. Ça dit dans le flavor text à the reapportionment eagle begged to be human, the ancestor granted half of that prayer. Dans le fond, les aigles voulaient devenir des humains. L'ancêtre a répondu à leur prière seulement à moitié. Fait que là, c'est comme les Haven, c'est des moitiés hommes, moitié pit. Fait que c'est un peu l'aspect qu'ils vont amener, la nouvelle gang qu'ils vont amener. Il n'y en avait pas avant Odyssey. C'est quelque chose qui est resté depuis. Là, chaque set a... On a vu des Haven dans New Capenna, notamment. Dans les nouveaux sets de Dominaria sont encore là. Fait que c'est quelque chose qui va vraiment rester. Sauf qu'ils vont surtout être dans Judgment. Dans le fond, dans 3 sets, il y en a moins dans Odyssey. Je sais pas pourquoi, mais dans Judgment, c'est vraiment là qu'il shine. On va notamment, Tommy va nous parler de son deck d'oiseaux quand on arrive là. Tu passes à la suivante?
Peut-être. On est dans le rouge.
On va aller dans les montagnes de Pardia. C'est là-dessus qu'on va finir pour cette semaine. Dans le fond, tu sais, avant, dans Magic, dans le rouge, c'était les Viachinos, les dragons, les gobelins. Là, ils veulent refaire nouveau.
Fait qu'il n'y a plus de gobelins.
Il n'y a plus de gobelins. Fait que c'est les montagnes de Pardia que ça s'appelle. Et quand tu le mets dans le nom de quelqu'un, tu dis qu'il est Pardic. Fait que si tu passes à la suivante, t'as deux tribes dans le rouge, dans Odyssey. T'as les barbares, les barbarians. Ouais. Fait que, tu sais, Albardier, trois colorless, un rouge pour un 3-1 first strike. On révolutionne rien là-dessus. Là. C'est juste que c'est des gros barbares humains qui habitent dans les montagnes. Tu vois, le Barbarian Lunatic, 3 colorless, un rouge, tu peux le sacrifier, dans le fond, parce que tu veux grossir ton graveyard, pour faire 2 de dégâts sur une créature. Fait que ça, c'est la première gang, c'est les barbares. Si tu passes à la suivante, l'autre gang, c'est les nains. Fait que au lieu d'avoir des gobelins, là, ils se sont dit, ça va être des nains, puis t'as toute une trollée de nains. Vous voulez vous faire un deck de nains à Magic, fouiller dans les boîtes d'Odyssée. Le Dwarven Grunt, hein, un rouge pour un Mountain Walk. Le Dwarven Recruiter, qui est la même carte que le Goblin Recruiter. Deux colorless, un rouge, un 2-2. Quand il rentre en jeu, tu cherches dans ta librairie pour toutes tes cartes de nains, tu les mets sur le top de ta librairie dans l'ordre que tu veux. Ou le Pardic Miner, un colorless, un rouge, un 1-1, tu sacrifies pour que ton adversaire ne peut pas jouer de land ce tour-ci. Toi, Lompré, tu as déjà gagné un tournoi avec cette carte-là.
Oui, c'était ma carte maîtresse.
Dans un deck de land destruction.
Yes.
Tu avais 4 Pardic Miner.
Ah oui, puis des pet land, puis aussi des cartes pour faire discarter.
Tes adversaires doivent t'aimer.
Ouais.
Ouais. Premier
cool, place. T'as gagné une boîte, je pense. Hein, tu m'avais compté. Écoute, Pardic Miner, je trouve que le concept est intéressant. Là. Fait que dans le fond, la façon dont les nains des montagnes de Pardia, c'est vraiment, tu sais, c'est les nains classiques qui habitent sous les montagnes. Et t'avais encore, à l'époque, beaucoup de land destruction dans ces sets-là. Et ils étaient souvent représentés sur les cartes des nains. Fait que dans le fond, c'est les nains qui construisent des galeries. Puis là, ça fait écraser la gang qui sont sur le dessus. Si tu nous passes à la suivante, je trouve qu'ils sont quand même nice dessinés. Tu vois, là, j'ai réussi à trouver sur Internet Archive les concept art des nains. Là. Ils ont vraiment fait comme les genre leurs armes, c'est fait avec des morceaux d'os et de fer. Ils ont tout un truc là, qu'ils gardent. Le nain légendaire, on va le voir dans deux semaines, qui est le boss de la gang de nains, c'est le fameux Baltar. Je vais pas en parler tout de suite. Parce que les nains vont avoir une importance. C'est vraiment là qu'ils shinent. On les voit plus vraiment par la suite là, avant un grand bout. Là. Nains dans Magic, là, c'est quand même... C'est généralement, ils se font surplanter par les gobelins. On passe à la...
Mais est-ce que Baltar, on va le revoir, lui?
Oh, oui, Baltar, c'est un des principaux. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve que ce sont vraiment cool. C'est pas mal les artworks préférés dans Odyssey. Là. J'aime beaucoup la cabale que je vais parler la semaine prochaine et les nains dans le rouge. Si tu passes à la slide suivante, mon ami. Et finalement, pour finir dans le rouge, t'avais un gros aspect choisir ou hasard. Ça, c'est quelque chose que Mark Rosewater tenait vraiment beaucoup. Fait que t'as, à travers tout le bloc Odyssey, t'as des cartes que... Parce qu'il voulait enlever... Randy Buehler voulait enlever le Direct Damage. Randy Buehler n'était pas un fan de Direct Damage. Vous avez remarqué Fireball, qu'on a vu au début de show, fait juste 2 et non 3.
Puis en Sorcery.
En Sorcery. Et il n'y a plus non plus d'effet Fireball. Les effets Fireball disparaissent à partir d'Odyssey et ne reviennent pas avant M10.
Tu parles de X pour X dégâts, genre.
Ouais, Fireball.
Disintegrate, Fireball.
Il voulait disparaître ça de standard. Ça, c'est Randy Buehler qui se disait, je trouve ça poche là, que dans une game qui est vraiment, tu sais, comme le Battlefield est comme tout mélangé, que là, quelqu'un pige une carte puis il finit la game avec ça parce qu'il a accumulé assez de land.
Ouais.
Fait qu'il voulait enlever ça complètement. Puis pour remplacer ça, parce que le rouge avait tout le temps eu un aspect burn, fait que ce qu'il a mis, c'est soit tu fais un choix ou tu mets du hasard. Fait que les choix, c'est que les spells de burn, c'est... Est-ce que je pige 2 cartes ou tu prends 4 d'en face? Ça, il va en avoir beaucoup. Et les aspects chance, tu as toute une série de cartes que dans le rouge que tu flippes un coin, puis ça fait un effet différent. Chance Encounter, c'est vraiment la plus grosse carte de flip coin dans l'histoire de Magic. 2 colorless, 2 rouges. On voit sur le dessin, c'est des barbares, des montagnes perdiques. Un enchantement. À chaque fois que tu flippes un coin, tu mets un Lock Counter sur ton Chance Encounter. Et au beginning de ton upkeep, si t'en as 10, t'as gagné la game.
Wow. Hey, c'est faisable, ça.
Ça, c'est faisable. C'est pas faisable juste seul. Mais non, tu passes à la slide suivante, Tommy...
Fait qu'il détestait les spells qui coûtent X, que tu garoches, puis que tu gagnes en direct damage, mais il introduit des alternate win conditions.
Ouais.
All right.
Oui, écoute, il y a 20 ans, hein, la compréhension du monde était différente. Un des gros decks qui va jouer Chance Encounter, c'est encore joué en pré-moderne de nos jours, c'est avec le Frenetic Ifrit de Mirage. Le Frenetic Ifrit, c'est un 2-1 flying que pour 0, tu flippes un coin pour y donner phase-in, phase-out. Fait que le trick, c'est que dès que tu avais ton Chance Encounter en jeu, si tu pouvais resolve ton Frenetic Ifrit, tu te mettais à flipper des coins jusqu'à temps que tu avais tes 10 counters. Ça l'a fait en sorte que Frenetic Ifrit s'est fait bannir en 2002. Mais sauf que c'était pas... Ils sont allés trop vite pour le bannir parce que après ça, le format pré-moderne de nos jours, ça c'est un des archétypes de deck. Et c'est vraiment simple. C'est dans le fond, c'est que tu veux soit péter l'enchantement ou le Frenetic Ifrit. Mm-hmm. Puis il faut que tu pognes les cartes. C'est pas un combo qui est vraiment dangereux parce qu'il est très difficile à assembler. Les deux cartes coûtent cher.
Ouais.
T'as une façon de répondre. Mais c'est quand même un archétype que je trouve intéressant. Si vous voulez gagner en flippant des 25 cents, c'est avec Chance
juste
Encounter.
Même,
puis avec un pouce
de gobelin, ça aide toujours les flips à coin.
Le pouce de gobelin.
Le pouce, ça fait que tu flippes deux scènes à toutes les fois que tu flippes une scène, fait que t'as plus de chances d'aller plus vite, non, on va se le dire. Je m'en étais déjà fait un deck de ça. Chris, que c'était plate.
C'est la fin.
Eh bien, merci beaucoup, Jason, pour ça. Premier volet, on va suivre pour les autres semaines. C'est... On va continuer à parcourir Odyssée, ses plaines et ses montagnes, ses îles et le reste. Avec nos compadres ici, hein. On va remercier Lompré d'être passé.
Yes, sir. À la prochaine, les magiciens et les magiciennes.
OK, c'est bon. Voyons, c'est qui ce Lompré-là? On va remercier Jonathan. Peut-être qu'on peut rappeler la toune.
Oui, le soundtrack qu'on écoutait, c'était Oblique Occasion. L'album Punishment, allez écouter ça. C'est, l'album coûte pas trop cher sur Bandcamp. Sinon, l'artiste l'a mis gratuit sur YouTube.
Quel sympathique gaillard. Merci Emmanuel d'être passé nous voir. Et un merci particulier à notre Sphinx qui nous a monté le dossier. Un autre merci à Martin Godette de Touski TV qui s'occupe de notre montage. Merci à Bond pour les beats, l'adversaire. Et vous, cher public, de nous suivre, de votre, voilà, de vos gentils commentaires. N'hésitez pas à venir commenter, partager des affaires Magic sur notre page Facebook. C'est pas mal là que ça existe, la communauté, le reste. Si vous êtes du genre à jouer à Magic aussi, gênez-vous pas. On vous achale plus maintenant avec ça, mais chaque vendredi soir, on joue ici au Musée de l'Absurde. On a une belle pièce dédiée. On est en train d'essayer de monter un studio pour pouvoir streamer ça aussi. Donc, gênez-vous pas me demander, contactez-moi. Je vais
ajouter Tommy à ce sujet-là, là. Étienne Laurando, hein, de Front Kick Production, a déjà dit en ondes à Terrain Basique que la table de Magic le vendredi soir au Musée de l'Absurde, c'était la plus belle table de gaming à Montréal.
Ah, ça, c'est sûr que ça brasse en essai. On règle des affaires, hein? No old bard. Fait qu'on vous souhaite une excellente semaine. On rejase Odyssée la prochaine. Il y a une affaire qu'il faut que je dise. Là. Ouais. Mon nom, c'est Tommy Godette, puis je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.